Courrier en lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour. Et ce, en écoutant des extraits qui sont lus soit par Hervé, soit par Catherine le plus souvent. Et en l'absence d'Hervé, aujourd'hui ce sera Catherine.
Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, bonjour.
Il n'y a pas le choix. Bien, Catherine, que vas-tu nous lire aujourd'hui?
Alors, je vais quand même respecter la tradition, j'ai choisi des nouvelles, au moins une nouvelle.
Ça changera.
Voilà. Ça changera. Je sens comme une pointe d'ironie.
Un petit peu.
Alors, en fait, j'ai retrouvé il y a quelque temps un recueil de 11 nouvelles de Jean-Paul Didier Laurent. Alors, j'imagine que tu le connais pas.
Je pourrais faire semblant de connaître, mais non, je ne connais pas.
Ah, c'est bien, là, sinon tu... Eh bien, Jean-Paul Didier Laurent était romancier et nouvelliste. Son premier roman, Le Liseur du 6h27, qui est paru en 2014 et édité au Diable Vauvert, était une déclaration d'amour éternelle à la littérature qui enchantera les lecteurs du monde entier, connaissant un succès immense à l'international d'abord, vendu dans 38 pays avant parution, puis au Diable Vauvert et enfin chez Folio.
J'imagine que ça, c'est le genre de livre que tu dois aimer, hommage à la littérature.
Oui, et en plus, c'est un livre, j'allais dire, que tout le monde peut lire. On rentre très facilement dedans. Alors, il y a une histoire, hein, c'est un petit peu de l'anticipation, mais on tombe dans la littérature et la littérature interdite.
Ah.
C'est ça qui titille aussi.
Intéressant.
Voilà. Donc, il a reçu de nombreux prix pour ce roman, dont d'ailleurs le prix du Festival du premier roman de Chambéry. Je fais une allusion, puisque nous avons aussi notre premier roman à Blois. Donc, voilà. Et alors, ça vous dit quelque chose, tout ça, non?
Eh bien, à vrai dire, pas plus que ça.
Bon, eh bien, c'est bien, au moins, t'auras le plaisir de le lire. Donc, en 2015, sort le recueil de nouvelles Macadam, c'est celui auquel je faisais allusion au début de nos échanges, qui rassemble des nouvelles de Jean-Paul Didier Laurent, pour la plupart primées. En 2016, paraît son deuxième roman, Le reste de leur vie. En 2018, son troisième, La fissure. Et Malamute, son dernier roman, et qu'il a écrit pendant le confinement, paraît en mars 21 et reçoit le prix Erckmann Chatrian en novembre 2021.
Mais tu as dit « était » un romancier et nouvelliste.
Oui, parce qu'en décembre 21, il décède. Il meurt d'un cancer.
Ah, c'est tout récent, ça.
Donc, ça fera bientôt un an. Voilà, donc c'est aussi une autre raison de saluer.
Une façon de lui rendre hommage.
Voilà, exactement. Donc, Macadam, donc, c'est une sélection des meilleures nouvelles de cet écrivain qui a eu un grand succès populaire. Quand on lui demande où il puise son inspiration, deux de ses nouvelles qui parlent par exemple avec justesse de la corrida, eh bien, je n'y ai jamais mis les pieds, explique-t-il en souriant. Pour moi, c'est un peu ça, être écrivain. C'est savoir écrire une histoire qui se passe sur la Lune sans y avoir jamais mis les pieds.
Pourquoi pas?
Voilà. Et donc, c'est l'une de ces nouvelles, Mosquito, que j'ai choisie. Tout le monde avait espéré le Père Noël en ce magnifique dimanche de Pentecôte. Un Père Noël avec une belle hotte remplie d'oreilles, voire même d'une ou deux queues. Le vieux barbu nous devait bien ça. 3 ans que l'ange de Séville n'avait plus foulé le sable des arènes de Nîmes. 3 putains de longues années sans Javier San Clemente et sa manière si particulière d'appréhender son art. Un toréo à vous foutre une foule en transe dès les premières secondes. Une économie de mouvement qui frisait l'indécence. El Angel mourait à chaque passe pour mieux renaître à la suivante. Ce type était un miracle perpétuel et pour beaucoup un fantasme incarné. Dès l'ouverture des guichets 3 mois plus tôt, les places s'étaient arrachées en quelques heures pour ce mano à mano de rêve avec Esteban Villacampa, l'étoile montante depuis 2 saisons. Ouais, tout le monde avait espéré le Père Noël, mais en lieu et place de sa bonne bouille avenante de grand-père généreux, c'est la grande faucheuse qui s'est pointée, Dame la mort en personne, venue nous rendre une petite visite au beau milieu de la faena de l'ange avec son dernier taureau. Il ne lui faut jamais bien longtemps pour frapper la mort, pas plus de temps qu'il n'en faut au taureau pour relever la tête. Il lui suffit pour accomplir son œuvre juste d'une petite brèche, une putain de petite brèche par laquelle elle n'a plus qu'à glisser la lame de sa faux. En général, elle se débrouille très bien toute seule, mais si en plus un pauvre type comme ma pomme lui déverrouille le loquet, elle se fait pas prier pour passer. Et que ce soit involontaire ou pas, accidentel ou criminel, elle s'en contrefout. Les « pardon, madame, j'ai pas fait exprès », elle s'en bat les plis de la capuche, cette traînée. La grosse boulette de Gaëtan Vignal, c'est pas son problème. Toujours à l'affût, elle en demandait pas plus pour foncer et faire son petit prélèvement. Et un torero, hein ? Devant plus de 13 000 personnes, j'ai entrebâillé la porte à cette salope décharnée. Oh, à peine une minuscule interstice, hein, mais bien assez pour que le taureau parvienne à déchirer l'espace de sa corne droite pour aller fouailler les chairs de l'ange. Fuir, c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit lorsque c'est arrivé. Fuir, avec pour unique obsession cette volonté de m'éloigner de l'épicentre, de quitter sans attendre cet endroit devenu maudit. Foutre le camp, coûte que coûte, avant que tout n'explose. Mettre le plus de distance possible entre moi et ça. Cet insupportable spectacle qui venait de nous péter en pleine gueule par ma faute. J'ai même pas réfléchi une seconde. Un vrai automate, une succession de gestes nerveux. Jeter en hâte l'instrument dans son écrin de velours rouge sombre, balancer les partoches par-dessus, replier le petit pupitre portatif et puis détaler. L'étui calé sous le bras, avec la désagréable impression de jouer le rôle d'un de ces personnages de mauvais films de gangsters, qui, après avoir vidé sa sulfateuse sur sa victime, se débarrasse de son arme encore fumante dans l'étui à violon avant de décamper. Même pas pris le temps de jeter un dernier regard vers l'abomination. Pas envie de voir le gâchis. Je m'attendais à ce que des mains me retiennent, à ce qu'on crie mon nom ou que le chef m'interpelle. « Oh, Gaëtan, qu'est-ce que tu fous ?» Mais personne n'a semblé remarquer mon départ. Tous n'avaient Dieu que pour l'agitation qui venait de saisir le petit monde d'en bas. La porte D me dégueulait sur la place des arènes alors que la foule était encore transie d'effroi sur les gradins. Une foule en état de collapsus, abasourdie, tentant vainement de comprendre ce dont elle venait d'être témoin, s'efforçant de se persuader qu'elle avait rêvé cette corne qui venait de s'enfoncer dans le torse d'Elangel, sans plus de difficulté que la pointe d'un couteau dans une motte de beurre tendre. Passer en une seconde du ravissement extatique le plus délicieux qui soit à l'horreur la plus totale ne se fait pas sans séquelles. Ça vous anesthésie l'entendement quelques minutes, un truc pareil. Ces quelques minutes de répit, c'est tout ce que j'avais pour me tirer de là et me foutre à l'abri avant que tout ce petit monde n'héberge du cauchemar et ne me tombe dessus. C'est que ça peut être con, une foule. Ça peut avoir le lynchage facile. Surtout une foule qui vient de perdre ses plus belles illusions à cause d'un incapable. J'ai traversé la place en courant. Me suis faufilé entre le flot des voitures pour traverser le boulevard des Arènes avant de m'engouffrer dans la rue Alexandre Ducrot. Sans ralentir l'allure, j'ai fendu la petite grappe de touristes agglutinés devant le musée des cultures taurines. Je crois bien que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ma vie venait de se scinder en deux, qu'il y aurait à présent deux mondes bien distincts, le monde d'avant cette cornada et celui d'après. Avec au beau milieu, dressé vers le ciel, ces 30 cm de kératine maculée du sang de Javier San Clemente. J'aurais voulu devenir invisible, me fondre, être le plus lisse possible afin de ne pas accrocher le regard des passants rencontrés, n'être plus qu'une vague silhouette entreaperçue en bordure de leur champ de vision et non ce type au regard halluciné, au visage mangé par la peur, courant comme un dératé au travers des ruelles avec son étui sous le bras. Pas un seul instant je n'ai osé me retourner, de crainte de voir la multitude fondre sur moi. J'ai grimpé 4 à 4 les marches de l'escalier menant à mon studio, mansardé le studio, Bas de plafond, parquet grinçant, radiateur électrique d'un autre âge, une fenêtre de toit en fin de vie qui laisse rentrer l'eau quand le vent l'y aide. En été, les tuiles boivent le soleil de toute leur terre cuite, histoire de vous transformer les lieux en véritable fournaise. Pourtant, jamais ces 28 mètres carrés rencognés sous les toits ne m'avaient paru si accueillants. Je m'y suis précipitée tel un lapin aux abois, regagnant la chaleur du terrier, loin du fracas des hommes, des armes et des chiens. J'ai verrouillé la porte à double tour avant de m'affaler sur le canapé, la poitrine en feu, ruisselant de sueur, les jambes dures comme du bois. On ne sprinte pas sur près d'un kilomètre comme un garenne de 6 semaines sans payer cash son arriéré d'ancien fumeur et la dizaine de kilos en trop qui va avec. Je suis restée prostrée là sans bouger, hagard, à contempler le mur d'en face, à l'affût des premiers signes annonciateurs de la curée. N'allez pas tarder. Vous ne pouvez pas en être autrement. Une heure a passé, et puis deux. 2 heures interminables pendant lesquelles le sentiment de culpabilité niché sous mon crâne n'a cessé de croître en distillant son venin, se nourrissant de mon angoisse. Putain, mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer ?
Je suis toute seule sur un tandem, seule sur un tandem. Personne à qui dire je t'aime, personne pour dire je t'aime. Je m'organise, j'avance, je brise tous les silences, je fonce, je mise. Et le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais de Seine. Regarde devant, je suis déter. Moi, je suis déter. Fillette, lève la tête, même si souvent c'est dur. J'écoute mes maquettes à fond dans la voiture. Le ciel de Paris, toujours. Je regrette de pas t'avoir fait l'amour.
Ça, je regrette.
Alors, je chante pour toi. Mais est-ce que tu danses? Traverser ma ville, ouais. Traverser sans île.
Personne n'avait été surpris lorsque, 2 mois plus tôt, le chef, après avoir pris connaissance des cartels de Pentecôte, nous avait branchés sur Corralito. La légende ne disait-elle pas qu'Angel, encore bébé, avait décoché à sa mère son premier sourire en écoutant le célèbre Paso Doble de Juan Álvarez Cantos. L'orchestre des arènes pouvait bien lui rendre cet hommage à l'occasion de son retour à Nîmes. On peut dire qu'on l'a bossé, Corralito. Deux mois durant, en long, en large et en travers, mouvement après mouvement. J'en ai bouffé de son solo à Juan Alvarez Cantos, la bouche vissée à l'instrument à m'en gercer les lèvres, encore et encore, jusqu'à le jouer les yeux fermés. Au bout de ces deux mois, j'étais prêt comme jamais je ne l'avais été. C'était sans compter sur ce restant de migraine qui, ce matin au réveil, est resté agrippé à mes tempes de toutes ses griffes, reliquat d'une nuit de folie à danser jusqu'à plus soif. Une danse, un mojito, une danse, un mojito, une danse, un mojito, une nuit à boire jusqu'à ne plus danser. En m'installant dans les gradins, tout m'a semblé trop net, d'une netteté presque douloureuse. Les couleurs étaient trop vives, les sons trop clairs, l'air trop transparent, le ciel trop bleu, le soleil trop chaud. Et cette terrible impression de ne plus rien savoir. Une première trompette n'a pas le droit à l'erreur. Elle peut bien un temps faire illusion au milieu du tintamarre ambiant, se planquer derrière les trombones, les clarinettes, les saxophones et les percussions, mais survient toujours ce moment où on lui demande de la ramener haut et fort. Après la mise en bouche du paseo, je me suis accrochée à mes partoches comme un noyé à sa planche de salut. Tout s'est bien passé jusqu'au troisième taureau de Javier San Clemente. Un vrai cadeau du Père Noël, celui-là. Armé, brave, fort et puissant, tout comme il faut. Il répondait au doux nom d'Andalos. Une bête à la hauteur du talent de l'ange de Séville. Il flottait dans les airs au milieu des odeurs de cigares comme un parfum d'apothéose. Ça fleurait bon le final d'anthologie, un combat pareil. Alors, à l'entame de la faena, quand ça s'est mis à gueuler « Musica !» de part et d'autre des arènes et que le chef a mis en branle sa baguette pour lancer « Coralito », je me suis cramponnée de tout mon regard à la portée sans la lâcher d'une croche. Des yeux, des poumons et des doigts, tout mon corps réduit à cela. Déchiffrer la partition, souffler dans l'embouchure, actionner les pistons. Envoler le public. Disparu Andalus et Javier San Clemente. Évaporer le couvercle d'azur posé au-dessus de nos têtes. Oublier cet étau qui enserrait mon crâne la seconde d'avant. Il n'y avait plus en cet instant que ce chapelet de noir, de blanche, ronde, croche, double croche, qui cascadait sur la partition posée sur le pupitre et qui m'ont emporté au fil de la mélodie, tandis que plus bas ne subsistait plus du chef que ce bras qui se balançait de bas en haut, de droite à gauche, comme une branche d'olivier s'agitant au gré du vent. C'est arrivé au plus mauvais moment. Au beau milieu du duo muletta et trompette, à l'instant même où je décochais la note dans les airs, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Que ce son qui s'échappait de l'instrument n'était pas le bon, que tout ça sonnait soudain affreusement faux. Il y a eu le cri, ce terrible cri que je n'oublierai jamais, un long cri d'effroi sortant des milliers de bouches simultanément et couvrant la note discordante comme pour mieux l'étouffer. J'ai arraché la trompette de mes lèvres. Au milieu de l'ovale, l'ange de Séville n'en finissait plus de danser au bout de la corne d'Andalus, tandis que les péones de sa quadrilla accouraient en agitant leur cape. J'ai entrouvert la fenêtre de toit pour laisser rentrer un semblant de filet d'air, histoire de brasser la fournaise. Le portable niché dans la poche de ma chemise s'est rappelé à mon bon souvenir en vibrant frénétiquement. Ernesto. S'il y avait bien quelqu'un à qui je pouvais me confier, c'était bien Ernesto. Deuxième trompette, il m'a toujours considéré un peu comme son grand frère. Il était inquiet, Ernesto. Tout le monde se demandait où t'étais passé, Gaëtan. Pourquoi t'es parti comme un voleur ? J'ai eu envie de lui rétorquer que j'étais plutôt parti comme un assassin. Je lui ai balancé le coup de la migraine carabinée pour justifier mon départ précipité, ce qui n'était finalement pas si éloigné de la vérité que ça. J'ai essayé de lui parler de la fausse note, mais il ne m'a pas laissé en placer une. Trop pressé qu'il était de me décrire les minutes qu'avait suivi le drame. Comment El Angel avait lâché son dernier souffle avant même d'atteindre l'infirmerie. Comment des aficionados hystériques avaient déchiré leurs vêtements de désespoir. Pas un seul instant, il n'a fait allusion à une éventuelle responsabilité de ma part dans tout ce qui venait d'arriver. Pas une seule fois, il n'a évoqué la musique. Je ne l'avais pourtant pas rêvé, ma fausse note. Avant de raccrocher, Ernesto m'a dit que la course de l'après-midi était annulée. The show can't go on. La mort d'une légende s'était plus cassée pour remplir la journée. J'ai allumé la télé, partout les mêmes images, la même scène effrayante qui passait en boucle, celle d'un homme qui ne cessait de mourir encore et encore sous l'assaut 100 fois répété d'un toro bravo. L'ange dans sa faena, à l'instant de sa dernière passe, cet infime tressaillement de tout son corps juste avant que le taureau ne frappe, le poignet qui se relâche, la tête qui se détourne imperceptiblement de l'animal, chacun y va de son analyse. Mais personne ne semble comprendre ce qui a bien pu se passer. Même les chroniqueurs taurins les plus avertis se retrouvent dans l'impasse. Tout le monde cherche une explication plausible qui pourrait justifier un tel comportement incompréhensible. J'ai eu envie de leur dire de se servir de leurs oreilles et non pas uniquement de leurs yeux. Qu'ils montent le son, nom d'un chien. Oh, pas beaucoup. Juste histoire d'entendre cette drôle de note dissonante qui vient se ficher dans les tympans de Javier San Clemente, aussi sûrement que la corne droite d'Andalus dans son cœur l'instant d'après. Parce que s'il y avait bien quelqu'un dans cette putain d'arène qui l'avait capté ma satanée fausse note, c'était bien lui, l'ange de Séville en personne, j'en suis persuadée. Tout le confirme dans son comportement, ce raidissement du buste, le bras qui retombe légèrement, ce fil invisible liant à l'animal qui se rompt brutalement, ce regard qui part à la recherche de l'orchestre, tache rouge parmi la foule. Mais par-dessus tout, il y a cette surprise que l'on peut lire sur son visage. Le ralenti est impitoyable, un ébahissement terrible qui vient manger toute sa figure lorsque survient ce son qu'il n'attendait pas. Il le connaît par cœur, son corralito, Javier San Clemente. C'est son passo-doble fétiche. Il peut en fredonner l'air de bout en bout, en siffler le solo sans omettre la moindre note. Cette discordance soudaine l'a pétrifié sur place. Surpris alors qu'Andalus entrait de toutes ses cornes dans la muleta, il a suspendu son geste, ouvrant ainsi la brèche fatale dans laquelle s'est engouffré le taureau chevauché par la reine des opportunistes. Miss Faucheuse. À l'écran, les témoignages se sont succédés. Tous mentionnent ce soubresaut soudain qui a secoué tout son corps. Certains avancent l'idée que le torero avait peut-être été piqué par une guêpe, une putain de guêpe qui se serait enfilée sous le chaleco avant de lui balancer un coup de dard au travers de la chemise au plus mauvais moment. D'autres envisagent un malaise dû à la chaleur. Quelques-uns vont même jusqu'à évoquer l'hypothèse du suicide. Étrangement, derrière chaque mot, sourd cette même rage, une rage qui veut qu'une légende ne puisse mourir sans une raison valable. Pendant près d'une heure, je suis restée scotchée à l'écran de la télé, ne perdant pas une miette de ce qui se disait. Une heure, pendant laquelle personne jamais n'a fait mention de Corralito, ni d'une quelconque fausse note. 13 500 spectateurs, près de 27 1000 oreilles si l'on décompte les quelques sourds et malentendants que peut contenir une telle foule. Et personne n'avait remarqué quoi que ce soit.
J'imagine que le dénouement est proche.
Il n'est pas très loin. T'es très fort, hein.
N'est-ce pas?
Ouais, je suis admirative. Je me suis glissée sous le pommeau de la douche après avoir jeté mon costume de scène dans le panier à linge sale. Jamais le rouge de la chemise ne m'avait semblé si proche de la couleur du sang. J'ai laissé l'eau ruisseler sur mon corps de longues minutes avant de me frictionner à grands coups de gants de toilette énergiques, se laver de toute cette saleté, retrouver un semblant de pureté tandis que le siphon aspirait à lui toutes les boues du jour. J'ai passé un jean, une chemise en lin, des baskets de toile avant de poser négligemment sur mes épaules un fin pull de coton. Une vraie tronche de catalogue printemps-été, la bedaine naissante en plus. J'ai attendu la fin du jour pour quitter mon repère et m'immerger dans le chaudron de la feria. J'ai joué des coudes au premier bar venu pour commander un verre, boire, diluer dans l'alcool cette boule de culpabilité qui m'étouffait. J'ai avancé ainsi de comptoir en comptoir, de bodega en une longue errance, une noyade qui n'en finissait pas avec cette seule idée en tête d'engloutir tout ce qui passait à portée de gosier. S'assommer l'esprit d'alcool et de bruit, s'abrutir du fracas des autres jusqu'à ne plus être qu'un fantôme. On m'a interpellé de droite et de gauche, Gaëtan par-ci, Gaëtan par-là. J'ai répondu au salut, j'ai trinqué, j'ai donné des accolades avec cette impression désagréable de feindre, de simuler mon propre rôle. Et toujours ce même interrogatoire en règle qui revenait sans cesse au fil des rencontres. « Oh Gaëtan, toi qui y étais, qu'est-ce que t'as vu ?»« Ce que j'ai vu, monsieur l'agent ?» Un fa dièse, voilà ce que j'ai vu, un putain de fa dièse posé sur la portée, un fa dièse que j'ai sarbacané de tout mon souffle en direction de la piste. Et juste après, il y avait Monsieur San Clemente qui virevoltait au bout de la corne de Victorino Martin. Voilà tout ce que j'ai vu. Devant le bar du 421, il régnait une effervescence triste. Il y avait bien sûr l'agitation frénétique de la fête, avec son brouhaha, son flot d'alcool et sa musique. Mais il y avait comme de la retenue dans l'air. Je me suis agrippée au comptoir et commandé du vin. « Rosé, blanc ou rouge ?» m'a demandé le serveur. J'ai répondu « N'importe ». La nuit, tous les vins sont gris. L'écran de télé rancogné au fond du bar montrait un Javier San Clemente pantelant, déjà exsangue, porté à bout de bras par les péones au travers du Calejón. Il y a eu un arrêt sur image. C'était beau comme une descente de croix de Fra Angelico. On pouvait lire la panique et le désarroi sur les visages. Au milieu du chatoiement indécent des couleurs, la figure livide de Javier San Clemente basculée en arrière, bouche entrouverte, semblait boire toute la lumière du ciel. J'ai eu envie de chialer. J'ai passé le reste de la nuit à essayer d'effacer cette image de martyr imprimée sur ma rétine, gobelet après gobelet, en vain. Il est des nuits comme ça où l'ivresse semble se refuser à vous. À l'impérator, je me suis laissé engloutir par le parterre gesticulant que formait la foule des danseurs. N'être plus qu'un corps inerte ballotté par la houle d'un DJ endiablé, un corps à peine plus vivant que celui d'El Angel avec sa cornada fatale. Je suis rentré chez moi sur le petit matin. Fa dièse, c'est ça qui m'a réveillé. Ça a explosé dans mon cerveau comme une évidence. Il n'y a pas l'ombre du plus petit fa dièse dans le solo de trompette de Coralito. Il y a bien un fa, oui, sous la forme d'une belle ronde, mais de dièse, nada. J'ai laissé ma nausée de côté, me suis ruée sur les partitions, histoire d'en avoir le cœur net. J'ai tourné les pages avec frénésie, plissant des yeux pour tenter de lire à travers ce satané voile flou que la presbytie s'échine à ériger devant moi depuis près d'un an. Ah, quand cette saloverie vous tient, elle ne vous lâche plus. Une vraie sangsue qu'une fois posée sur vos yeux vous aspire l'acuité, quoi que vous fassiez. C'est le lot de tous les quadras, paraît-il. Oh, elle m'a pas encore eu, hein. Surtout pas subir cette fatalité idiote sans broncher, ne pas se laisser bouffer les dixièmes sans combattre. Un an de lutte à jouer de subterfuge, à se placer près des meilleures sources de lumière, à allonger de plus en plus les bras pour faire des mises à point salutaires, à éviter dédaigneusement les annuaires et les notices de boîtes de médoc. Je suis pas dupe. Je sais bien qu'arrivera le moment où feindre deviendra impossible. Je finirai alors par rentrer dans le rang, la paire de demi-lunes posée en équilibre sur l'arête du nez, comme un signe distinctif de ma soumission face à la presbytie. La presbytie gagne toujours. En attendant, je triche. Mes partoches, je les agrandis à coups de photocopieur. 130% de grossissement, format paysage. Ça m'oblige à tourner les pages un peu plus souvent que les autres, mais ça repousse l'échéance des lorgnons. Mon regard a glissé le long de la portée jusqu'au passage fatidique du duo muletta et trompette. Le fa se trouvait bien là, œuf minuscule posé en équilibre sur sa ligne. Alors je l'ai vu. Un enchevêtrement sombre de pattes et d'ailes microscopiques qui faisait comme un joli petit gribouillis sur la blancheur du papier. Un moustique, une saloperie de moustique écrabouillé juste à la gauche du fa, dessinant une belle altération plus vraie que nature, modifiant du même coup la note d'un demi-ton. Fa dièse. Une putain de fausse note qui avait claqué dans les airs de ce dimanche de Pentecôte comme un coup de fusil assassin, frappant Javier San Clemente pendant sa faena et l'abattant tel un ange en plein vol.
Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins, car pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose?
Once I passed through a populous city, imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions. Yet now, of all that city, I remember only a woman I casually met there, who detained me for love of me. Day by day and night by night, we were together. All else has long been forgotten by me. I remember, I say, only that woman who passionately clung to me. Again we wander, we love, we separate again.
Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Notre époque résonne telle une porte close.
We separate again.
Et nous, comment fait-on?
I must not go.
Sur quelle idée on se repose?
With silent lips, sad and tremulous.
Ça y est, maintenant je sais pourquoi ça s'appelle Mosquito.
Et voilà. Ah bah oui, on ne va pas l'expliquer avant. Hein.
Tu vois, je me serais quasiment arrêté à la fin du deuxième extrait, en sachant que c'était une fausse note qui avait abattu le torero.
Et oui,
ça m'aurait suffi.
Mais oui, mais c'est
mais il y a un petit raffinement en
c'est
plus.
C'est plus subtil parce que tu te rends bien compte que c'est quand même un bon musicien et.
Et que ce serait, oui, anormal.
Ça paraît bizarre, quand même.
Voilà. Fausse note.
Alors, moi, j'ai choisi cette nouvelle parce que je trouve que ça illustre vraiment ce que doit être une nouvelle. Alors, je vais vous faire une citation de ce qu'est une nouvelle. « Œuvre littéraire proche du roman, qui s'en distingue généralement par la brièveté, le petit nombre de personnages, la concentration et l'intensité de l'action, le caractère insolite des événements contés, la nouvelle a sur le roman de à vaste proportion cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. » Trésor de la langue française, je choisis mes
c'est
citations
bien.
Quand même.
Oui.
Voilà.
Côté insolite.
Ouais.
Oui.
Et la fin de cette citation est. Non, pas du tout, la fin de la citation, je vais la retrouver parce que je l'ai perdue. Oui, autre caractéristique de la nouvelle, elle se conclut sur une fin surprenante et rapide qu'on appelle la chute.
Bravo. Eh oui, bien sûr.
Donc là, on a eu droit à la chute.
Ah bah écoute, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être que si tu as une nouvelle pas trop longue, tu peux nous en lire une seconde.
J'en ai une petite. On va changer d'atmosphère. J'en ai une petite. Alors, je choisis.
Atmosphère.
Oui, une petite qui se passe dans une maison de retraite. Ça va changer.
Oh, ça va être charmant.
Oui. Brume. 12 ans. 12 ans déjà que je suis ici, à cause de Maria, l'aînée de mes deux filles. Oh, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, d'un simple claquement de doigts. J'ai lutté, je me suis battue. J'ai réussi dans les premiers temps à repousser l'échéance malgré les arguments toujours plus nombreux de ma fille. Bon, Elisabeth, ma deuxième, était plutôt sans avis sur le sujet. Elle a toujours su faire preuve d'une neutralité passive pour les prises de décisions délicates. Elle a délégué les pleins pouvoirs à sa grande sœur, qui s'est pas fait prier pour prendre la tête des opérations. Oui, pendant longtemps, j'ai rechigné, donc. Joué du sabot telle une vieille mule entêtée pour repousser les assauts répétés de Maria. « Ça sera bien plus simple pour tout le monde », elle disait. « L'établissement n'est qu'à 30 minutes de voiture de chez nous. On pourra venir te voir toutes les semaines. Et puis, je serai beaucoup plus tranquille à te savoir entre de bonnes mains. » J'ai eu beau lui faire remarquer que la banlieue de Châteauroux, c'était pas vraiment l'endroit où j'avais pensé finir mes jours, que depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours eu la mère à portée de mollet. Elle n'a jamais lâché prise. Maigre consolation, au final, ce n'est pas Maria qui a eu raison de mes défenses. Non, c'est la chute dans la cuisine et ce foutu fémur qui a craqué comme une vieille branche de bois mort. C'est Rose, l'aide familiale, qui m'a trouvée étendue de tout mon long au pied de l'évier. Impossible de me relever. Je gisais là depuis la veille au soir et avais fini par me faire une raison. Les 6 semaines de convalescence passées chez Maria ont fini par grignoter le peu de volonté qui me restait. Les glycines. Rien que le nom m'a foutu la chair de poule la première fois qu'elle l'a prononcé devant moi. Je crois bien que l'Hexagone compte autant de maisons de retraite qui portent le nom « les glycines » que d'hôtels répondant à l'étrange appellation de « cheval blanc ». Pour couronner le tout, il n'y a jamais eu l'ombre d'un début de glycine autour du bâtiment, ni dans le parc, ni poussant comme toute glycine qui se respecte contre les murs. Pas plus d'ailleurs que vous ne trouverez de cheval blanc à proximité des hôtels du même nom. Aujourd'hui encore, ces appellations restent des énigmes pour moi. Des énigmes dont personne ne semble détenir la réponse. D'ailleurs, je vois bien que tout le monde se fout royalement du pourquoi. Ici, on vous fait vite comprendre que les pourquoi ne sont plus de votre âge. Ici, on a droit à 2 alguazils intraitables, 2 infirmières en chef qui font régner l'ordre et respecter les règles sans jamais fléchir. Une pour le jour, une pour la nuit. Jamais relâche. Oh, le soleil me manque. Sa chaleur comme sa lumière. Une clarté qui semble à jamais s'en être allée, remplacée par cette saleté de brouillard qui vient d'on ne sait où et qui n'en finit pas de s'écouler sur le monde. Ici, en novembre, c'est normal, paraît-il. C'est sournois la brume. C'est comme la vieillesse, ça profite souvent de la nuit pour forcir. Ça vous envahit sans bruit, s'insinue jusque dans les moindres recoins, vous engourdit les pensées et vous éteint les souvenirs sans même que vous vous soyez rendu compte de sa présence. Au matin, elle est là, omniprésente et ne vous lâchera plus. Comme d'habitude, je suis arrivée le dernier au réfectoire. J'ai toujours conservé cette drôle de manie de me cantonner en queue de peloton. Ce n'est pas que je sois moins rapide que les autres. Il y en a beaucoup ici qui avancent au rythme de leur déambulateur, ni que mon appétit soit moindre, mais il y a toujours ce vieux réflexe de puntillero qui est resté en moi. N'arriver qu'à la toute fin, lorsque tout a été dit ou presque, et qu'il me faut terminer ce qui doit l'être. Je me suis assis en face de mon bol. Gisèle Levasseur, la fille de salle, m'a demandé si je préférais du thé ou du café. Ça fait 12 ans que tous les matins que Dieu fait, je prends du café avec une larme de lait, et tous les matins, cette brave fille me demande si je veux du thé ou du café. Café, s'il vous plaît, avec une larme de lait. Merci, mademoiselle Levasseur. Ma voisine de droite, Jean, le pain est trop dur, le beurre trop mou, la confiture trop sucrée. J'ai envie de lui dire qu'elle est trop géniarde, mais j'avale ma phrase avec le verre d'eau posé devant moi et 3 petits cachets qu'il me faut prendre tous les matins de peur de ne pas pouvoir assister au prochain lever du soleil. S'il daigne bien faire l'effort de pointer son nez. Une pilule rose pour la tension, une blanche pour la thyroïde et une bleue claire pour je ne sais plus quelle autre malédiction que la vieillesse a inventée pour nous égayer l'existence. Certains ici ont droit à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et passent plus de temps à ingurgiter la ribambelle de cachetons posée devant eux que la tranche de pain tartinée avec l'air zatspalo à 0% de matière grasse qui tente de se faire passer pour du beurre. Ici, tout est à 0%. Ils veulent que l'on meure en bonne santé. Ah, cette nuit, il y a eu un nouveau départ. Aux glycines, le mot « décès » est soigneusement proscrit. Toujours cette fichue persistance à ne pas oser affronter la mort en face, même ici, où elle a ses quartiers et où l'on peut la croiser à tout instant. Alors on tourne autour, on fait des ronds de jambes, on l'habille de beaux mots comme « départ ». J'aurais aimé pouvoir vous dire que l'atmosphère qui régnait ce matin dans le réfectoire était au recueillement, mais il n'en était rien. Les bruits de succion et de mastication humide de mes congénères semblaient juste un peu plus discrets qu'à l'accoutumée. Les bouches peut-être un peu moins avides, les coups d'œil plus furtifs, les tintements de couverts un soupçon plus feutrés. Le seul signe extérieur de l'absence était cette place libre qui attirait tous les regards. La chaise vide de Marcel Garnier qui faisait comme une béance intolérable au milieu du réfectoire. On l'a retrouvée sur le petit matin, sagement couchée dans son lit. Son départ n'a été une surprise pour personne. Victime d'une attaque, nous a annoncé tout à l'heure Madame Vergelet, la directrice de l'établissement. J'ai étouffé dans ma serviette de table le gloussement qui s'échappait de ma bouche. Rupture d'anévrisme, crise cardiaque, embolie pulmonaire, quelle que soit la cause, ils finissent toujours par appeler ça une attaque. Ils n'ont jamais rien trouvé de mieux comme expression pour dire que la grande faucheuse en avait terminé de son troisième tertio avec l'un d'entre nous. Je dois être le seul ici à avoir déjà assisté à une estocade. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit, une estocade en bonne et due forme. Et avec la horde de vieillards qui déambule aux glycines, elle n'a jamais grand mal à la porter son estocade, la mort. Cela faisait un bon bout de temps qu'il promenait son lot de banderilles, Marcel Garnier. Avec son taux de cholestérol galopant, son diabète fluctuant et ses artères fatiguées, il faisait partie de ces surcitaires qui n'en finissent pas de mourir. Comme il en existe des dizaines d'autres ici, aussi discrets que des fantômes, passant l'essentiel de leur temps à attendre l'heure de la soupe. Marcel Garnier était de cela, à patienter à longueur de journée, l'œil rivé sur le réveil de sa table de nuit, en lissant du plat de la main la serviette posée sur ses genoux. Des êtres déjà en partance, errant sur le quai dans l'attente de ce foutu départ qui tarde à venir. J'ai regardé la chaise vide de Marcel Garnier avec envie. Dimanche est le jour des visites. J'ai passé l'après-midi avec quelques autres dans le hall, assis sur le banc qui fait face à la porte d'entrée, à regarder la vie du dehors venir se cogner contre la baie vitrée. Tout à l'heure, ils ont apporté la dépouille de Marcel Garnier. Dans ma tête a résonné le bruit de l'arrastre. J'ai de plus en plus souvent le sentiment que la mort ne veut pas de moi, qu'elle a encore besoin de son vieux puntilero ici-bas pour leur faire accomplir le grand passage. Je sais maintenant que ma place est ici, comme elle était dans les arènes il y a près de 70 ans. Car même aux glycines, parfois, malgré les coups d'estoc, la fin tarde à venir. Il reste cet infime filet de vie qui s'évertue encore à circuler et qui ne veut pas se tarir. Alors, au creux de la nuit, il me faut me glisser hors de mon lit, oublier un instant le sac de douleur qui est devenu ma vieille carcasse et me faufiler dans le couloir au milieu des ténèbres, remonter une à une les chambres, le cœur battant, à la recherche de la bonne porte, priant pour ne pas tomber sur l'alguazil de nuit, m'avancer jusqu'au lit. Alors, comme je le faisais par le passé sur le sable de l'arène, je coupe le dernier fil et les libère. Étrangement, je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'en cet instant où ma main tranche le cordon invisible. Le dernier souffle du père Garnier n'a pas été bien difficile à cueillir. Comme tous les autres, l'oreiller plaqué sur sa figure a bu le peu de vie qui restait encore dans ses poumons. Lorsque tout est fini, je les contemple toujours une dernière fois. Malgré la pénombre qui voile leur visage, il me semble parfois déceler des traces de soulagement dans leur regard éteint. Demain, j'aurai 102 ans. Demain, je vais prendre du thé, rien que pour voir la bouche de Gisèle Levasseur béer de surprise.
Eh bien, merci Catherine pour ces deux nouvelles qui sont tirées de, rappelle-nous.
Alors, le recueil s'appelle Macadam. Ce sont des nouvelles de Jean-Paul Didier Laurent en un mot. C'est publié aux éditions Au Diable Vauvert. Tout ce qu'il a publié d'ailleurs en France est publié Au Diable Vauvert. Et on peut trouver en bibliothèque, chez le libraire, peut-être qu'il sera dans l'obligation de le commander, là, parce qu'il a quelques années. Mais, et il y a d'autres romans ou recueils de nouvelles de Jean-Paul Guillaume.
Il a écrit beaucoup de choses, mais...
Il a écrit 4 romans et pas mal de recueils de nouvelles. Bah, il est quand même décédé à, je crois, 59 ans.
Ah oui, donc, relativement jeune.
C'est pas si vieux que ça.
Oui, c'est pas si vieux que ça, effectivement.
Et il n'a pas commencé tout de suite à écrire.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Catherine, je n'ose te demander si le titre est déjà choisi.
Le titre, non, mais moi, j'ai envie de vous faire marcher.
Marcher ?
Ouais.
Tiens, tiens. Nous verrons ça le mois prochain. Au revoir, Catherine.
Au revoir.